Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir à Phnom Penh. En 4 ans, ils vont tuer près de 20% de la population du Cambodge. Voici le deuxième épisode de l'histoire de Pinyatay, un Cambodgien qui a vu mourir toute sa famille et qui va réussir à s'enfuir en Thaïlande. Il sera là tout à l'heure. Je tire cette histoire de son livre qui paraît chez Archipoche, « Tu vivras mon fils ». Je l'ai écrite avec Simon Veil. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, 14h-15h, Ondelat raconte.
Dans l'épisode précédent, le 17 avril 1975, Pinyatay, qui est ingénieur à Phnom Penh au Cambodge, voit arriver les Khmers rouges qui prennent le pouvoir. Comme les autres, avec sa femme Annie et leurs 3 enfants et une partie de sa famille, il prend la route de la campagne pour devenir paysan. Dans le village où ils échouent, on les force à travailler la terre et on les soumet à des séances de rééducation politique. Leurs conditions de vie se dégradent rapidement, manque de nourriture, absence de médecins. Leur petit dernier, Stoud, meurt 6 mois après l'arrivée des Khmers rouges. Ça fait 8 mois qu'on a quitté Phnom Penh et on est transféré dans le village de Don Hay, au nord-ouest. Et là, mon travail consiste à battre le riz avec des bœufs. Ils piétinent le riz, ça permet de séparer le paddy des tiges. Et après, on rassemble la paille, je balaye le paddy et les femmes ramassent les grains. Et à Don Hay, par groupe de 20, tous les 3 jours, on doit participer à des séances d'autocritique, à voix haute, les yeux baissés.
Je m'abaisse devant la suprême Anka. Je m'abaisse devant ceux qui sont rassemblés ici, afin qu'ils puissent me voir. Je peux voir devant moi la boue qui me tache, mais seuls mes camarades voient la boue qui est derrière moi. Camarades, j'ai besoin de votre aide pour prendre conscience de mes fautes et de mes erreurs. Je m'abaisse devant l'Angkar. Je dois être un bon révolutionnaire. Je remercie l'Angkar.
Et là, on doit tout dire, tout révéler. Quel travail on a fait, s'il a été bien fait, si on a travaillé dur. Le nombre de pauses qu'on a prises, combien de fois on est allé déféquer. Tout, en terminant toujours par cette formule rituelle.
Je m'abaisse pour que l'Angkar puisse me purifier, me critiquer et m'éduquer à devenir encore plus soumis.
Début mars, on m'annonce qu'une équipe médicale vient d'arriver. La première depuis presque 1 an. Alors évidemment, tout le monde se prétend malade. Et j'y vais aussi. Et je tombe sur de soi-disant médecins, garçons et filles, tout en noir. Ils ont devant eux une table sur laquelle se trouvent une 20aine de bouteilles de soda, Coca, Pepsi, 7-Up, peu importe. Dans la moitié, il y a un liquide marron qui, soi-disant, apaise les douleurs. Et dans l'autre moitié, un liquide blanchâtre, un fortifiant.
Vous avez mal quelque part?
Non. Non, mais je suis épuisé, je suis exténué.
Et là, elle attrape une seringue qui a déjà servi au moins 10 fois sous mes yeux. Et sans la désinfecter, elle la plonge dans la bouteille de Pepsi, et ensuite dans mon bras. 2 jours plus tard, je me réveille inondé de sueur. Et au travail, je frissonne toute la journée. Et bien sûr, impossible d'accuser la piqûre. On ne critique pas l'Angkar. Alors, c'est peut-être le paludisme. Le paludisme? Trop de travail, pas assez de nourriture. La situation à Don Hay est devenue catastrophique. Coliques, dysenterie, fièvres diverses et variées, et une étrange maladie. Des œdèmes, du liquide qui s'accumule dans les pieds, dans les mains, qui se met à gonfler, jusqu'à ce que la peau devienne translucide. Mais aux séances d'autocritique, je dois répéter.
Je ne mange pas très bien. L'Angkar n'a pas assez de nourriture. Mais ça me permet de m'habituer à la faim et de devenir plus résistant. L'Angkar m'aide à m'endurcir et je l'en remercie.
Maintenant, mes parents ne sont plus avec nous. Ils sont dans un village,
à côté. Je vais les voir, et je trouve mon père étendu sur une natte.
Oh, Ty. Ty, je croyais que j'allais mourir sans te revoir. Je vais bientôt mourir, tu sais. Ce sera une délivrance. Mais toi, Ty, toi, tu dois t'en sortir. Tu vivras, mon fils. Tu vivras, pour fuir. Fuis pour vivre. Allez, pars. Tu vivras, mon fils, hein? Tu vivras.
Il est mort 3 jours plus tard. Et le bébé de mon frère est mort aussi, de la colique. Et mes sœurs sont mortes aussi. Et puis, ma mère, mes neveux, ma nièce, mon frère. Mon père m'a demandé de vivre. Mais est-ce que dans cet enfer, la mort n'est pas préférable à la vie? Est-ce que la mort, au lieu d'être une ennemie à combattre, n'est pas une amie qui nous délivre des souffrances? Un homme me raconte une histoire incroyable.
Ils ont découvert un cadavre. Il a été dévoré par une dizaine de gens, Ty.
Je peux le comprendre, ça. On a perdu notre humanité. Mais quand les Khmers rouges ont appris ça, ils ont dit que c'était des ogres, et dans la mythologie cambodgienne, les ogres, mangeurs de chair humaine, sont la figure du mal.
Ces ogres ne feront pas long feu. Nous avons un camp spécial pour eux. Ils ne survivront pas plus d'un mois, et ça n'est que justice.
Un jour, grâce au troc, je réussis à trouver un peu de riz. Alors je pars tout de suite chercher des petits animaux pour l'agrémenter, des grenouilles, des sauterelles, des criquets, des têtards, des escargots, des lézards, et pourquoi pas des serpents. Quand je rentre, mon fils Nawat a tout mangé.
J'ai pas pu résister, papa. J'ai essayé d'en manger un tout petit peu, mais j'ai pas pu.
Et là j'attrape une baguette, et je me mets à le rouer de coups. Et lui il crie « Pardon, pardon, papa !» Et là Annie me tire le bras. La faim nous rend fous. Alors je prends Nawat dans mes bras. Je le berce en pleurant avec lui. Début mai, un Khmer Rouge fait irruption chez nous. Et là, mon fils Sudat court se cacher. Le Khmer Rouge va le tirer de sa cachette.
Dis donc, toi, où est-ce que tu travailles?
Mais enfin, mon fils a une blessure à la jambe. Il peut pas travailler.
Ah bon? Et comment court-il si vite? Il est fort. Il peut travailler.
Il est parti travailler, maigre, la peau tendue avec cette blessure à la jambe. Et 5 jours plus tard,
on est venu nous dire qu'il était mort. De quoi? J'ai demandé à voir le corps. Il l'avait déjà enterré. Nous ne sommes plus que 3. Annie, moi et notre fils Nawat.
Un après-midi, un cadre du village vient me chercher.
Il y a une femme morte là-bas. Vas-y, enterre-la.
Je connais bien cette famille. Ils étaient 6, ils ne sont plus que 3. Une institutrice et sa fille. Et sa sœur. J'arrive chez elle, je grimpe à l'échelle. C'est la sœur qui est morte. Elle est là, enveloppée dans des chiffons et de vieux vêtements, il n'y a que la tête qui dépasse. On descend le cadavre, on va l'enterrer à 500 mètres, dans un bosquet. Le lendemain, à la cantine, j'assiste à une scène pitoyable. L'institutrice, en larmes, une joue dans la boue, presque nue, et sa fille à côté.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On me raconte qu'on a retrouvé des morceaux de chair humaine dans sa marmite. Elle a découpé en morceaux le cadavre de sa sœur avant que je ne l'enterre, et elle l'a mangé. Et si elle est là par terre à moitié nue, le visage tuméfié, c'est que les Khmers rouges l'ont battue.
Dégagez! N'ayez pas pitié pour cette ogresse!
Le soir, quand je suis allé prendre un bol de soupe à la cantine, elle était toujours là, dans la boue. Elle était morte. Je n'ai jamais su ce qu'est devenue sa fille. Je connais un homme cultivé, Sem. C'est un ancien responsable des douanes qui était assez bien placé sous le régime du prince Yanouk. De temps en temps, il dit quelques mots en français. Et désormais, la nouvelle constitution des Khmers Rouges nous autorise à posséder de petits objets personnels. Et donc un jour, Sem a sorti sa montre, une belle Omega en or. Et au déjeuner...
Dis-moi, camarade, je voudrais t'emprunter ta montre. C'est pour l'Ankar. Un camarade, je ne peux pas vous la prêter. J'en ai besoin pour être à l'heure au travail. Regarde-moi, camarade. Je suis le chef du groupe. Et je n'ai pas de montre. Et moi, je dois annoncer l'heure à des centaines de travailleurs. Prête-moi ta montre. Pardon, camarade. J'ai besoin d'un renseignement. Selon la nouvelle constitution, j'ai le droit de la garder, non ?
10 jours plus tard, au déjeuner, le chef Khmer Rouge aborde la montre à son poignet. Et je les entends qui parlent entre eux.
Camarade, je vois que tu as une nouvelle montre. Oui, c'est celle de Sem, tu te souviens ? Celui qui employait tout le temps des mots français impérialistes. Je l'ai amené à la rééducation. Il a voulu s'enfuir. Je l'ai abattu.
Un jour, à une séance d'autocritique.
Yatai, comment conçois-tu ton travail ? As-tu fait des erreurs ? As-tu vu un camarade faire des erreurs ? Ou une chose défendue ?
J'ai travaillé dur, camarade. Mais l'autre jour, je me suis endormi en gardant les bœufs. Pas longtemps, juste 5 minutes. Et il y en a un qui s'est enfui. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai fait une faute, camarade. Et je demande à l'Ankar de me juger. J'accepterai votre sentence.
Camarade, c'est bien d'admettre ton erreur. Mais pourquoi as-tu attendu tant de temps pour nous le dire ? As-tu l'intention de saboter notre travail ?
Je reconnais ma faute.
Ils se sont levés un par un. Et tour à tour, ils m'ont critiqué, à voix haute. Jusqu'à ce que le chef prononce sa sentence d'une voix glaciale.
Tu n'es toujours pas réformé. Tu as encore une attitude de petit bourgeois. Ta conduite porte atteinte à la révolution. Nous allons donc employer l'éducation chaude. Je demande à 3 de tes camarades de te corriger.
Ils m'ont asséné une pluie de gifles, de coups de pied et de coups de poing. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas crié non plus. J'ai subi pour survivre. Au troisième trimestre de 1976, les gens continuent de mourir.
Dans le nouveau Kampuchea, 1 million de personnes suffisent pour continuer la révolution, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas besoin du reste. Et nous préférerons toujours tuer 10 amis que de garder un seul ennemi en vie.
Je n'ai plus qu'une idée. Fuir. M'évader. Ça m'obsède. Début novembre 1976, arrive ce que je craignais le plus. On est à la table, à la cantine. Et là, je vois un Khmer Rouge qui n'arrête pas de me regarder. Il s'approche.
Je vous connais, non ?
Non ?
Comment vous appelez-vous ?
Thaï. Je m'appelle Thaï.
Ah ! Vous ne seriez pas Pigna Thaï ? Vous étiez directeur des travaux publics, hein ? Vous êtes ingénieur, formé par l'Amérique impérialiste.
Comment me connaissez-vous ?
Je vous connais bien. Et vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ? J'ai travaillé pour vous pourtant sur un chantier sur la route de Poursat. Évidemment, vos ouvriers vous connaissent, mais vous, vous ne les connaissez pas. Hein ? Je suis trop petit. Et vous, sans doute, trop important.
Mais j'ai toujours bien traité mes employés. Vous en souvenez sûrement ?
Je ne vous ai pas dit que vous aviez commis une erreur. Mais vous étiez le supérieur de Souni, qui lui m'a renvoyé. Et en plus, en vous faisant appeler Thaï, vous avez dissimulé votre identité à l'Ankar.
2 jours plus tard, on vient me prévenir.
Thaï, tu es en danger, Thaï. Je les ai entendus parler de toi. Il a suggéré de t'emmener dans la forêt. Les autres lui ont dit que tu étais malade, que tu allais mourir.
Alors ils ont décidé d'attendre une semaine, mais si tu n'es pas mort d'ici là, ils vont t'emmener dans la forêt. Quand il est parti, je m'assois, immobile. Ma première réaction, renoncer, me soumettre. Ils vont m'abattre comme un chien loin, dans la forêt. De toute façon, je vais mourir. Et puis, l'instinct de survie reprend le dessus. Reprends-toi. Réfléchis. Sors de là. Mais que faire? Partir seul? Je vois Nawat au fond de la pièce, couché sur le ventre, les membres gonflés. Non. Non, je ne le laisserai pas, ni lui, ni Annie. Mais est-ce que je peux m'enfuir avec eux? Non. Il vaut mieux qu'ils restent ici plutôt que de mourir avec moi. Alors après dîner, Nawat s'est endormi derrière son rideau au fond de la paillote. Annie. Annie, ma chérie. Viens. Approche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Je suis condamné, Annie. J'ai été formé en accident. Pour eux, c'est impardonnable. Ils vont venir me chercher dans une semaine. Mais toi, même si tu es ma femme, si tu restes seul ici avec Nawat, je pense pas qu'ils vont te faire de mal. Elle ne dit rien, mais son regard, c'est la seule solution, Annie. Je vais tenter ma chance dans la forêt. Si je réussis, on se reverra.
Tu veux partir? Tu veux me laisser ici avec Nawat? Mais Tai, mon chéri, je préfère mourir avec toi que de rester ici.
C'est la première fois. La première fois de toute notre vie à deux qu'elle ne se range pas, à mon opinion. Elle aussi, elle ne veut pas choisir entre la vie et la mort. Elle est lucide. Elle veut juste choisir sa façon de mourir, c'est-à-dire avec moi.
Mitaï, si on part tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire de Nawat? Il peut pas venir avec nous, il peut pas marcher longtemps, on peut pas le porter. Ils vont nous rattraper, ils vont nous tuer. On doit le laisser ici, Tai. Mais on peut pas le laisser.
Annie est en train d'accomplir le plus grand sacrifice qu'une mère peut faire. Abandonner son fils pour tenter de se sauver.
Qu'est-ce qu'on va faire de Nawat, Tai?
On l'amène à l'hôpital. C'est ça qu'il faut faire. On l'amène à l'hôpital. Le lendemain, je suis allé demander au chef de village d'amener Nawat à l'hôpital. Et comme il était très malade, que ses pieds, ses mains, ses joues étaient enflés, il a dit oui. À l'hôpital, je mets Nawat dans un lit. Et là, j'entends une voix, une femme.
Oh, c'est incroyable! Cet enfant ressemble bien comme deux gouttes d'eau. Moi, mes enfants sont morts maintenant. Ah? Vous pourriez peut-être vous occuper un peu de lui, puisqu'il ressemble à votre fils. Ah oui? Je m'occuperai de lui. Je vous en prie. Ma femme et moi, on est malades. Prenez soin de lui.
On a mis 3 jours à se décider à partir. Et avant de partir, je suis retourné voir Nawat à l'hôpital. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai glissée dans sa poche. Garde-la sur toi. Et mets-la quand tu seras grand. Tu dois vivre, Nawat. Que Bouddha et les bons esprits veillent sur toi. Souviens-toi, Nawat. Tu vivras, mon fils. Et maintenant, il faut tout planifier et vite. Il y a un chantier d'irrigation, pas loin. Il nous faut des informations sur le chemin pour y aller. Annie connaît une fille, Mom, qui a travaillé là-bas. Elle va la voir. La fille se retrouve toute seule. Elle veut partir avec nous. Et elle nous conseille d'aller dans une carrière où les gens sont envoyés casser des pierres. Et moi, je fabrique de faux laissez-passer. J'ai encore du papier et un stylo à billes bien caché. J'imite la signature du chef de village. Les Khmers rouges sont des illettrés. Ils n'y verront que du feu. On quitte le village à l'aube, un matin de novembre 1976. Je marche loin devant les femmes. J'ai mis une chemise noire, une casquette chinoise et des sandales au chimine. On a 16 kilomètres à parcourir jusqu'à cette carrière. Et je n'ai aucune idée de ce qu'on fera après. On est resté 6 mois dans cette carrière. Le temps d'étudier un itinéraire pour notre grande évasion vers la Thaïlande. On est parti en mai 1977 avec un tout petit groupe en file indienne dans la jungle. Tous les autres ont été arrêtés, sauf nous deux et une amie d'Annie. Un soir, le 9e jour je crois, on arrive au sommet d'une montagne. La nuit commence à tomber, on s'installe pour dormir. Et là je fais un petit feu. Aucun risque, hein, la fumée se perdra dans les arbres. Mais au moment de nous coucher, ce petit feu s'étend à des herbes sèches. J'essaye de l'éteindre, j'y arrive pas. Il faut partir, Annie. Il faut ramasser nos affaires, on file. Et là, on dévale la pente, affolé, et à peu près à 200 mètres plus bas, Annie me dit « La boîte, taille. On a oublié la boîte. » Une boîte dans laquelle on fait cuire notre riz, c'est un objet vital. « N'y va pas, Annie. On n'a pas le temps d'y retourner, viens. » Elle y est allée quand même. Et j'ai attendu qu'elle revienne. Longtemps. J'ai même crié. Annie !
Annie !
Annie !
Annie ! Annie !
J'ai marché des heures. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas retrouvé. Et je n'ai pas non plus retrouvé son ami Ing. Et je me suis retrouvé et là, ma petite voix m'a dit « Pars, pars maintenant !» Alors je me suis levé et j'ai marché vers le soleil couchant, comme un fantôme. Je n'avais plus rien à perdre, je n'avais plus peur. J'étais devenu invincible. Et puis j'ai perdu mon sac, avec mon riz. Je l'ai oublié au bord d'un ruisseau. Alors j'ai commencé à me nourrir de fruits, de champignons, de larves, de tortues crues, de chauves-souris crues. C'était risqué. Mais qu'est-ce que j'avais à perdre? Je n'ai plus que la peau sur les os. À chaque pas, je dois arracher les sangsues qui se collent à mes jambes. Mais j'avance. J'avance poussé par l'injonction de mon père. Tu vivras, mon fils. La Thaïlande n'est pas loin maintenant. J'en suis sûr. À un moment, je tombe sur un obstacle, une rivière large et tumultueuse. Pour la traverser, je me déshabille, je fourre mes dollars dans ma gourde et je saute à l'eau en slip, en tenant mes affaires à bout de bras. Et là, quoi? À 20 mètres, je vois 3 jeunes soldats de 15 et 16 ans, tout vêtus de noir, qui braquent leurs fusils sur moi. Des Khmers rouges! Je n'ai pas eu peur. Ils m'ont emmené dans leur camp.
Alors vous venez de Thaïlande?
Ah non, camarade. Au contraire, je viens du Cambodge. Regardez-moi. Si je venais de Thaïlande, est-ce que je serais aussi maigre? Alors si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais d'abord, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. J'ai tellement faim. Ils m'ont donné des bananes.
Qui vous a dit que nous vous tuerions? On ne tue pas les gens, hein? On a besoin d'eux pour reconstruire le pays. Vous allez rester avec nous et travailler avec nous. C'est tout. Vous êtes notre camarade, notre frère.
Ils m'ont attaché pour la nuit, après m'avoir dit qu'on était à 300 mètres de la frontière thaïlandaise. Mais le lendemain, ils m'ont traité d'ennemi. Et moi, je savais ce que ça voulait dire. Ils allaient m'exécuter. Le soir, ils m'ont attaché au lit, mais un peu moins fort. Je me suis endormi et j'ai été réveillé par un orage. J'avais des crampes terribles à l'estomac.
Camarade ! Camarade, j'ai mal au ventre. Vite, sinon je vais faire dans mon pantalon.
Ils m'ont emmené dehors.
Vous pouvez me desserrer un peu les bras ?
Et là, la pluie s'est mise à tomber, violente. Ils m'ont ramené dans ma tente, et là, avec la pluie, la corde s'était un peu détendue. Je pouvais bouger mes bras. Et là, d'un coup, le nœud de mon bras droit s'est défait, et puis le gauche. J'ai pris mon temps. J'ai profité d'un coup de tonnerre. Je suis sorti dehors, et je me suis laissé glisser jusqu'au bord de la rivière. J'avais repéré un câble qui l'a traversé. Je me suis accroché à ce câble, le courant était violent, le câble tremblait, arrivé au milieu, le courant a failli m'emporter. Dans l'état dans lequel j'étais, je ne sais pas comment je suis arrivé à traverser cette rivière. Mais j'étais libre, libre. Je n'ai pas pris le chemin le plus court, j'ai encore marché 2 jours. Et je suis arrivé au-dessus d'une autoroute avec des voitures et des maisons de poupées. La Thaïlande.
Voilà, cette histoire s'achève sur la musique de La Déchirure. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu Nawat Thaï?
Jusqu'à maintenant, non. Je ne cherchais pas tout le temps. Jusqu'à maintenant. Je continue encore la recherche.
Vous le dites dans votre livre, c'est presque pour le retrouver que vous avez écrit ce livre.
Voilà, j'espère qu'il va le lire un jour, mais jusqu'à maintenant, malheureusement, non. On ne sait même pas s'il est mort, il est vivant.
Vous avez retrouvé des gens qui étaient dans ce village avec vous? Aucun?
Oui, j'ai été dans ces villas où j'ai été vécu quand je suis.
Vous êtes retourné?
Oui, oui, mais personne, quoi. Tous les villas sont désertés.
Vous nous disiez dans l'émission d'hier que, à force d'avoir raconté votre histoire, vous l'avez mise très loin, à distance. Mais quelque chose me dit que le sort de Nawat est une chose qui vous hante.
Toujours, oui, toujours. Je ne sais pas s'il est vivant toujours, ou s'il est à l'extérieur du Cambodge, ou à l'intérieur du Cambodge. Non, aucune idée.
Il avait quel âge?
Quand j'ai quitté, il avait 6 ans. Maintenant, oui. Je pense qu'il doit avoir presque 50 ans. 46, 46.
Vous êtes sûr qu'il est vivant, au fond?
Je le sens comme ça, mais même j'ai fait, disons, souvent, vous savez, quand vous êtes dans la détresse, on cherche les, comme on fait les fortune tellers, les gens qui lisent les cartes.
Les diseuses de bonne aventure.
Voilà, voilà.
Tout les à voyantes.
Fait. Et la plupart, pas tous, mais la plupart, disent qu'il est vivant quelque part.
Est-ce que d'une manière ou d'une autre, c'est une question vraiment de petit blanc impérialiste que je vais vous poser là. Mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez soigné vos traumatismes? Ou est-ce que vous avez fait tout ça tout seul?
Soigné, traumatisme?
Oui.
Non, je n'ai jamais été chez un psychiatre.
Ni un psychiatre?
Ni quoi que ce soit. Je pense le fait que j'ai parlé, j'ai témoigné tout à fait au début, même quand j'étais au camp des réfugiés.
Oui.
Tout ça m'a aidé, je pense. Tout ça m'a aidé à l'extérioriser complètement de moi. Comme vous dites, les premières années, c'était un peu difficile, mais avec le temps qui passe, et le fait de leur parler, au lieu de garder pour moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé.
Mais aujourd'hui, on vous dirait qu'avec un millième de ce que vous avez vécu, il faudrait que vous fassiez 10 ans de psychanalyse.
Peut-être, mais moi, dans mon cas, je n'en ai pas besoin.
Histoire de génération?
Je ne sais pas, mais bon... Après, vous savez, quand j'étais parti, je reste quelques mois dans le camp de réfugiés. Et après, je pense pouvoir partir au Canada. Mais heureusement, il y a le journal Le Monde qui a sorti mon histoire en première page, l'Odyssée de l'ingénieur Pin, je me souviens toujours. Et justement, il y a un ami qui a lu l'article et qui m'a envoyé un télégramme à ce moment-là,
oui,
pour dire comme s'il a lu ma pensée. Pin, viens en France, j'ai un boulot pour toi. C'était un ingénieur en chef, M. Arrigui de Casanova. Alors, au lieu de partir au Canada, donc, j'ai choisi de revenir en France. Mmh. Parce que déjà, je vais avoir un boulot. Et deuxièmement, la France est plus proche du Cambodge que le Canada. De cette façon-là, je peux suivre les événements du Cambodge et aussi la trace de mon fils. Voyez.
C'est
pour ça que j'ai choisi Nawat. J'ai choisi de venir en France. Mmh.
Depuis, Thaï, vous avez été heureux parfois?
Oui, ça, maintenant je suis heureux. Je me suis remarié, j'ai de nouveau trois fils.
Oui.
Trois fils, comme avant, si vous voulez.
Oui.
Et tous les trois, maintenant, ils sont des professionnels. Hein. Ils sont tous des ingénieurs. Chacun a un double diplôme. Mmh. Un qui est pilote Air France, un autre qui travaille à l'AFD, l'Agence française de développement comme moi, et puis le troisième qui est banquier maintenant. Mmh. Tous les trois ingénieurs, et ça va pour l'instant.
Ça peut étonner les gens que vous prononciez cette phrase. Oui, maintenant, je suis heureux.
Je suis heureux parce que, voyez, quand vous avez vécu quelque chose comme je l'ai vécu, la vie devient plus simple. En fait, j'étais très heureux quand j'étais avec les Khmer Rouges, quand j'ai assez à manger, c'est tout.
Oui.
Bien respirer, manger et être dans sa famille. C'est le simple. Autrement dit, quand j'étais sorti, je suis moins ambitieux.
Mmh.
Donc, moins de besoins. Ils ont moins de besoins pour être heureux. Et ça, ça me rend heureux.
L'injonction de votre père, tu vivras mon fils, c'est ça qui a été le moteur de votre survie?
Oui. Et c'est pour ça que j'ai pensé que mon fils devait survivre, parce que je lui ai dit à lui aussi.
La même chose.
La même chose.
Comme votre père, comme vous, ça vous a sauvé, vous vous êtes dit, je l'ai sauvé en lui donnant cette phrase.
Voilà. Exactement. C'est pour ça que j'ai toujours bon espoir.
Mmh.
Mais vous savez, plus le temps passe, l'espoir devient de plus en plus minimal.
Mmh.
Et ça qui est dramatique, quoi.
Longtemps après la chute du régime Khmer Rouge, en 1979, le pays a été libéré par l'armée vietnamienne. Il est resté sous le joug des Vietnamiens ensuite pendant 10 ans. Longtemps, les Cambodgiens n'ont pas voulu faire le ménage de tout ça. Ils n'ont pas voulu organiser de procès. Et la vie a repris, au fond, comme si rien ne s'était passé. 20% de la population cambodgienne, 1 700 000 personnes sans doute, sont morts au cours de ce génocide. Et ils n'ont pas voulu de procès. C'était une décision folle de ne pas vouloir régler les comptes. Ou vous pensez comme eux qu'il aurait fallu en rester là?
Non, c'est assez complexe, voyez. La situation, c'est plutôt politique. Parce que y a pas mal de dirigeants actuels qui sont aussi d'anciens Khmer Rouges.
Dont le Premier ministre Hun Sen.
Dont le Premier ministre Hun Sen. Mais, disons, d'un autre côté, il faut dire aussi qu'il y a des négociations qui exigent, il y a des conditions qu'on ne connaît pas tous, voyez, de telle sorte, pour avoir la paix, il faut peut-être laisser en paix certains Khmer Rouges.
Mmh.
Donc, ils ont décidé de négocier avec les Nations Unies de juger seulement les hauts dirigeants Khmer Rouge.
Donc il y a eu un procès, il n'y a pas longtemps, hein. Le verdict date de 2014. Deux chefs Khmer Rouge ont été condamnés, tous les autres malheureusement étaient morts à ce moment-là, dont Pol Pot, qu'on n'a pas pu juger.
Oui.
Et donc deux chefs Khmer Rouge, Khieu Sampan et Nguyen Chi, ont été condamnés à la prison à vie. Mais on n'est pas allé chercher en dessous, c'est-à-dire que les sous-chefs, les chefs régionaux, ceux qui vous ont fait du mal à vous, ceux qui ont tué vos enfants, on ne les a pas jugés. C'est bien comme ça?
Ce n'est pas bien, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, tout ça, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et puis, le fait d'avoir déjà un jugement, c'est déjà pas mal, d'après moi. Parce que au lieu de n'avoir pas de tribunal, c'est mieux d'avoir un jugement pour rendre justice à la population. Et surtout, c'est la condamnation de ces deux dirigeants, et trois même. Il y a deux aussi, le directeur du
centre de torture,
voilà,
qui était à Phnom Penh et qui a torturé tous les intellectuels demeurés en ville.
Voilà. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de condamner ces dirigeants-là. Ils représentent le régime Khmer Rouge. N'oubliez pas ça.
Mais quand vous retournez, ça c'est quelque chose comparé à ce qui s'est passé avec les nazis, remarquez, il y a pas mal de similitudes, mais quand vous retournez à Phnom Penh, au restaurant, il vous arrive de croiser des gens qui ont été des cadres du régime Khmer Rouge?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, les gens qui sont les cadres des Khmer Rouge sont généralement les paysans. Les paysans, ils vivent dans les campagnes, généralement, c'est là.
Mais si vous allez à la campagne aujourd'hui, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a été...
Oui, mais on ne reconnaît pas qui est qui maintenant. Tout le monde se ressemble. Parce que tout le monde, les Khmer Rouge ne s'habillent plus en noir, ils s'habillent comme nous. Mmh. Nous sommes tous Cambodgiens. Maintenant, les Khmer Rouge, ils ont peur même d'être reconnus, vous voyez. Donc, ils essaient d'assimiler avec les autres aussi. Donc, certainement, on ne reconnaît pas, sauf si vous avez de la famille qui sont Khmer Rouge.
Mmh.
À ce moment-là, vous les reconnaissez. Mais là,
comprenez que c'est difficile à comprendre pour nous. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, si on va ensemble dans un village, on peut tomber sur quelqu'un qui a commis ces crimes atroces et qui vit tranquillement sa vie dans sa paillote.
Oui, c'est possible. C'est une possibilité, moi, je ne l'ai pas rencontré. Mais il y a des gens qui l'ont rencontré, mais qui ne peuvent rien faire.
Il y a des gens qui ont des envies de vengeance?
Au début, oui. Mais maintenant, je pense que tout ça s'est apaisé. Hmm. Tout ça s'est apaisé, petit à petit.
Alors, il y a eu tout un processus de paix appuyé par les Nations Unies, des élections qui ont maintenu en place ce régime de Hun Sen, qui est toujours le Premier ministre depuis 1979, du Cambodge, qui est un ancien dirigeant Khmer Rouge. Le pays a énormément changé. Est-ce qu'il vous plaît le Cambodge d'aujourd'hui, qui est un Cambodge qui commence à ressembler un peu à la Thaïlande, qui est un Cambodge riche, avec des immeubles en verre fumé, avec de l'argent, des voitures, beaucoup de prostitution, beaucoup d'alcool, un pays...
En capitaliste sauvage, si vous voulez, en quelque sorte. Mais quand vous me demandez est-ce que ça me plaît, je peux rien dire. C'est oui et non, si vous voulez. On souhaite quelque chose, mais on n'arrive pas à l'avoir. Mais on doit se résigner à vivre avec. Voyez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est difficile. Moi, ce que j'espère, c'est que les Cambodgiens se sont réconciliés, se négocient, au lieu de s'entretuer encore. L'histoire nous a démontré déjà. Quand les Cambodgiens se sont divisés, ce sont les voisins qui en profitent.
Okun Charan, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Une fois de plus, j'ai envie de dire, de réveiller cette histoire, qui est l'histoire de votre vie, que j'ai donc tirée de ce livre, que je conseille vivement à tous ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé au Cambodge entre 1975 et 1979. Tu vivras, mon fils, c'est le nom du livre, et le nom de l'éditeur qui vient de rééditer ce livre qui a été un best-seller mondial, Archipoche. Okun Charan, et merci beaucoup.
Merci aussi de m'avoir invité.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.